Bonjour, pardonnez-nous ce tout petit retard. On va donc découvrir ces auteurs hispaniques qui nous en mettent plein la vue, comme on l'a dit un peu familièrement pour ce café littéraire. Donc c'est un petit panorama, une balade avec nos amis espagnols et latino-américains que nous vous convions. Trois auteurs présents ici pour représenter cette diversité des mondes hispaniques. Juan Miguel Aguilera, déjà venu à plusieurs reprises, ami fidèle du festival depuis 2003. Et il est vrai qu'il a été un des premiers à inaugurer le prix Imaginal qu'il a reçu et qu'évidemment l'a indéfectiblement attaché au festival. Ensuite, Juan Miguel Aguilera, vous savez qu'au-delà de l'écrivain de science-fiction et de fantasy, en Espagne, son œuvre se partage en deux, on pourrait dire à peu près moitié science-fiction, moitié fantasy. Mais aujourd'hui, en France, c'est plutôt les livres de fantasy, à part un roman de SF à la Talente, qui sont publiés. Et puis, deuxième auteur, Yosh, qui donc est notre invité cubain, qui est déjà venu aussi aux Imaginales à plusieurs reprises et qu'on est évidemment très heureux d'accueillir à nouveau cette année. Il allait de soi qu'on ne pouvait pas mettre un coup d'éclairage sur les mondes hispaniques sans inviter notre ami Yosh. Et le troisième, c'est le petit nouveau, la découverte. C'est tout simplement parce qu'on a entendu dire, c'est par les deux livres traduits en France qu'on a découvert. Ce ton assez particulier, assez caustique, un peu kafkaïen, on peut dire que même si c'est d'une modernité différente, c'est un auteur, je pense qu'il n'est pas absurde de dire que parfois c'est un peu cet humour noir de l'absurde qu'on trouve, même si, contrairement à Kafka, notre auteur argentin, lui, est beaucoup plus directement impliqué sur les questions sociales. On voit bien que c'est une critique sociale plus forte et que cet absurde prend plus place dans la société que dans l'individu lui-même. Il nous dira s'il est d'accord avec cette analyse de ses romans. Donc, un des auteurs remarqués en Argentine, puisqu'il a eu pour son premier roman un prix littéraire réputé, et que par ailleurs, on ne le savait pas au moment où on l'a invité, Leandro Avalos Blacha a été l'un des membres de la délégation argentine au Salon du Livre de Paris, ce qui est toujours très bon signe pour un auteur, c'est qu'il est considéré comme emblématique de son pays. Voilà, trois auteurs passionnants, trois auteurs différents. On va commencer par Yosh, peut-être parce que sa science-fiction s'inscrit peut-être plus dans une tradition et paradoxalement, même si ses thèmes sont parfois très caustiques à l'égard non seulement de certaines situations de son pays, mais aussi des Américains, Yosh s'inscrit quand même si c'est avec son ton à lui, dans une grande tradition de la science-fiction américaine, quelque part. Planète allouée, c'est une SF des années 50-70 américaine qui serait dopée à la modernité. Je ne sais pas s'il accepterait cette formule, Yosh.
Supongo que muchos autores, cuando les propusieran que su ciencia ficción es de hace 40 años, podrían ofenderse. Yo me siento muy halagado.
Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs, quand on leur dit que leur science-fiction daterait de 30 ou 40 ans, ils pourraient se sentir très offensés. Moi, ça me réjouit plutôt.
Basta con mirar mi aspecto y se darán cuenta que lo que se está usando en la actualidad no es un problema que me moleste mucho. Basta con ver mi aspecto y mi manera de vestir. Y es obvio que lo que se usa en la actualidad no es algo que me preocupe
mucho. Oui, quand on regarde déjà la façon dont on est habillé, quand on voit ce qui se porte actuellement, on se dit que là, il y a déjà un décalage.
Yo empecé a leer ciencia ficción en los años 70, en un momento en que en Cuba confluían, como ha dicho Stephanie, clásicos norteamericanos de los años 50, como Los Mercaderes del Espacio, como las novelas policíacas El Sol Desnudo de Isaac Asimov, y coincidían también los clásicos de la ciencia ficción socialista, sobre todo soviética, de los hermanos Strugatsky.
Alors moi j'ai commencé à lire de la science-fiction dans les années 70 et à cette époque-là, ce qu'on trouvait à Cuba, c'était des romans de science-fiction, les classiques de la SF des années 50, Asimov, etc. Et en même temps, on trouvait également tous les grands auteurs de la science-fiction russe.
Mientras que los soviéticos pensaban que la ciencia-ficción debía ser para reflexionar sobre problemas de la construcción del socialismo, los problemas del futuro, los norteamericanos pensaban que lo primero que debía hacer una historia era entretener.
Et tandis que les écrivains russes pensaient, donc la science-fiction russe pensait que la science-fiction servait à réfléchir sur le futur, le socialisme, le peuple, eh bien les Américains, eux, pensaient que finalement la science-fiction, son rôle était de divertir.
Quand je leí historias comme las de John Brunner, Stan on Zanzibar, comme historias de lo que se llamó la ciencia-ficción social inglesa, yo dije, alguna vez me gustaría hacer esto, pero desde el punto de vista de Cuba.
Et lorsque j'ai lu notamment un certain nombre de romans de science-fiction d'auteurs de la veine de la science-fiction sociale anglaise, ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit que si j'écrivais, j'aimerais en fait faire ça, mais avec la vision de Cuba.
Mis amigos me decían, estás loco, en Cuba no se puede publicar esa ciencia-ficción, no se puede hablar de un futuro en el que existen problemas en un país socialista.
Et tous mes amis m'ont dit, mais t'es complètement fou. Tu peux pas écrire à Cuba une science-fiction dans laquelle tu mettrais un futur avec les problèmes qui se poseraient dans un pays socialiste.
Luego cayó la Unión Soviética, vinieron los años 90, y no solo el futuro, sino el presente dejó de pertenecer al socialismo. Entonces escribí este libro porque era mi manera de tratar de unir la imaginación inherente a la ciencia ficción con el sentido de rabia de haber de estar del lado equivocado de la cadena de distribución colonias metrópolis que me había tocado.
Et finalement, quand j'ai commencé à écrire, les États-Unis, l'Union soviétique s'est écroulée. Et Cuba a quand même continué à être ce qu'elle était. Et finalement, c'était dans les années 90. Et là, d'un coup, on se retrouvait plongé quelque part dans cette espèce de futur que j'avais envisagé. Mais c'était notre présent. Et on se retrouvait quelque part enchaîné. Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, ces livres, et notamment Planète Allouée, pour décrire un peu la situation qu'il y avait à cette époque-là et qui pouvait être assimilée à quelque chose de futuriste.
Yo quería que los lectores cubanos reconocieran a su país a través del espejo deformante de la ciencia ficción y me quedé muy sorprendido cuando Silvi, que no vive en Cuba, que nunca ha estado en Cuba, me dijo que funcionaba también como una historia de ciencia ficción para los que no conocían un país del tercer mundo.
Et donc moi je voulais écrire une histoire de SF dans laquelle les Cubains pourraient reconnaître leur pays mais à travers le miroir déformant de la SF. Et j'ai été très surpris lorsque Sylvie a lu mes récits et m'a dit que ça pouvait également fonctionner dans un pays qui n'était pas Cuba pour un lectorat non cubain en tant qu'histoire de SF pour un public qui ne vivait pas la situation de l'intérieur.
Este año este libro sera publicado en los Estados Unidos. A mí esto todavía me parece increíble, a pocos meses de que salga el libro. Es como un boliviano que comienza a estudiar ninjitsu y un buen día lo invitan a Japón a hacer una demostración.
Dans quelques temps, le livre va être publié aux États-Unis et moi, à quelques mois de la parution, ça me paraît toujours aussi incroyable. C'est comme si un Bolivien apprenait un peu des techniques de ninja et qu'on l'invitait au Japon pour faire une démonstration.
Y es curioso que también mi editor norteamericano, Ilan Stallings, me dice que mi novela tiene un aire retro. Yo le digo que lo que para ellos es retro, para nosotros, en los años 90, cuando yo la escribí, era un futuro muy lejano.
Et mon éditeur américain m'a dit que le roman, en fait, c'était une science-fiction un petit peu à l'ancienne. Moi, je lui ai répondu que finalement, quand j'ai écrit ça dans les années 90, ça paraissait être un futur très lointain.
Es obvio que lo que es moderno, vintage, retro, de anticipación, es algo muy relativo según el país y el momento.
Oui, je pense que ce qu'on peut qualifier de rétro, futuriste ou vintage, c'est finalement des notions très relatives en fonction du pays où on se situe.
Quiero decir que, por ejemplo, cuando yo viajo desde Cuba hasta Francia, para mí no es solo un viaje en el espacio, es un viaje en el tiempo, unos 50 o 60 años hacia adelante.
Par exemple, quand je voyage entre Cuba et la France, pour moi, c'est un espèce de voyage un peu spatial, un voyage dans le temps. C'est-à-dire que là, je prends d'un coup 50 à 70 ans d'avance.
Quand Sylvie m'enseigne gadgets comme son téléphone qui obéit aux commandes de voix, quand Jessica me montre la manière en que constantemente peut être connectée avec son téléphone, pour moi, ça c'est ciencia ficción. Je suis ici viviendo ciencia ficción.
Oui, donc quand Sylvie me montre son téléphone qui parle ou qui fait des choses absolument incroyables, ou Jessica qui me montre des outils également informatiques avec lesquels elle est constamment connectée et qu'elle peut faire énormément de choses, pour moi, ça c'est de la pure science-fiction.
En cambio, pienso que si ustedes llegaran a Cuba y les dijeran que tenemos 8 horas de electricidad y después 8 horas sin, que no existe conexión Wi-Fi en ninguna parte del país y que la máxima velocidad de Internet, donde no está prohibida, son 40 kilobytes por segundo, ustedes les parecería no estar viviendo ciencia ficción, sino estar viviendo una historia de terror.
Et en fait, si je vous disais que quand je vais rentrer à Cuba, je vais retrouver une situation où on a 8 heures avec électricité et 8 heures sans, où on a, pour les quelques chanceux qui ont l'autorisation d'avoir une connexion Internet, des débits de 40 kilobits, là, ça, c'est plus de la science-fiction dont je parle, mais c'est plutôt de la terreur ou de l'horreur.
Toujours science-fiction, mais cette fois-ci avec notre ami Juan Miguel Aguilera. On parlera tout à l'heure de fantasy, on va commencer par la SF. Petit extrait, il s'agit donc du Filet d'Indra, roman de science-fiction assez récent de Juan Miguel Aguilera, traduit aux éditions de La Talente. Selon la théorie d'un chercheur de l'Oregon, cette irrégularité venait d'un élément profondément enfoui sous le plateau laurentien. Ce pouvait être dû à l'affleurement d'un matériau radioactif magnétique, mais c'était impossible d'un point de vue géologique. Le bouclier granitique du plateau était l'une des zones les plus anciennes et les plus stables de la Terre. Jim réfléchit à tout cela. Modifier les paramètres du programme du satellite, même légèrement, ce qui serait le cas, reviendrait très cher. Il lui faudrait ensuite justifier ses dépenses. Et la recherche en géologie, aussi intéressante fut-elle, n'entrait pas dans les compétences de son département. Un détail le frappait néanmoins. Matériau radioactif magnétique. Les géologues précisaient bien qu'ils ne pouvaient rajouter foi à une telle hypothèse, mais la simple mention d'une conjoncture aussi improbable à leurs yeux prouvait l'étendue de leur incompréhension. Cette chose inconnue, inexplicable, peut-être radioactive et si proche de la frontière des États-Unis méritait attention. Jim Conrad ordonna que l'on corrige l'orbite du satellite. Les résultats tombèrent 2 jours plus tard et l'on convoqua une réunion d'urgence. Les responsables du département de géologie du SPO, Larry Kaplan et Suzanne Goodman, étaient abasourdis par ce qu'ils avaient mis au jour. « Voyez-vous, colonel, fit Kaplan, les données recueillies sont étonnantes, incroyables, je dirais même, cependant elles vont toutes dans le même sens. » Il avait l'air gêné en étalant les rapports imprimés sur le bureau de Jim, il ajouta « Il pourrait s'agir d'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. » « À moins que nous n'en ayons complètement perdu la tête, commenta Suzanne d'un air là. » Le colonel examina attentivement les diagrammes colorés constituant l'essentiel du rapport des deux géologues. Visiblement perplexe, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça signifie ? Jim, dit Kaplan sur un ton solennel, nous sommes convaincus que l'objet découvert au Canada n'est autre qu'un artefact. Et voilà. Mais c'est pas nouveau. Juan Miguel Aguilera, je me rappelle un autre roman publié chez un éditeur aujourd'hui disparu en France. Je me rappelle de nouvelles. Les extraterrestres, ça vous intéresse ?
Bueno, ¿se oye bien? ¿Funciona? Sí. Me ha encantado que lo leyeras porque suena más inteligente que cuando lo he escrito.
Je suis très content que tu l'aies lu parce que ça sonne mieux et plus intelligent que lorsque je l'ai écrit.
Y la pregunta era porque estaba fascinado por la...
¿Cuál era la cuestión? Si yo estaba fascinado por la lectura y las sonoridades.
Sí, estaba escuchando las palabras y me he quedado fascinado.
Que no es algo nuevo, que ya habías escrito en un editorial que ahora desapareció, algo de este tipo.
Sí, bueno, yo tengo dos líneas a la hora de escribir y que aparentemente son muy diferentes una de otra, que es ciencia ficción dura o hard, y novela histórica fantástica.
Donc, au moment d'écrire, moi je travaille dans deux directions, la science-fiction pure et dure et le roman historique.
Et el tema que los une son un poco el tema de fondo, la idea de fondo que siempre hay un viaje, un descubrimiento de una realidad fascinante al final de ese viaje.
Ce qui les unit, c'est une réalité dans le fond, c'est une réalité qui est fascinante et qui conduit vers ce même voyage.
Sí, después de un viaje.
Oui, cette réalité fascinante après un long voyage.
Y otra cosa que me interesa mucho, y a lo mejor por eso ese párrafo suena tan científico, es un poco, me gusta la libertad que nos da la fantasía y la ciencia ficción, me gusta.
Ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est peut-être pour ça que ce paragraphe que Stéphanie vient de lire paraît aussi scientifique.
A mí me gusta la libertad que me permite la ciencia ficción.
Voilà, ce qui m'intéresse, c'est la liberté que me permet, que m'offre la science fiction.
Pero me gusta también el limitar esa libertad con datos reales.
Mais j'aime aussi limiter cette liberté avec des faits réels.
En la novela histórica, soy muy, muy estricto con lo que es histórico y no es históricamente.
Dans le roman historique, je suis vraiment très strict, très précis avec les faits qui sont historiques et ceux qui ne le sont pas.
Y en la novela de ciencia ficción, el tema científico me interesa muchísimo.
Y en el roman de ciencia ficción, es el tema científico que me interesa mucho.
Porque creo que en el fondo lo que estamos haciendo cuando creamos una novela.
Porque yo creo que en el fondo lo que estamos en train de hacer cuando creamos un roman.
Es algo parecido a hacer un truco de magia.
Es algo que se aproxima del truco del magicien.
Sí, un mago, un ilusionista más bien, no un mago. Imaginemos que un mago va a cortar una chica en dos aquí en medio de este escenario.
Donc le trucage d'un fantaisiste plutôt que d'un magicien quand il s'apprête à couper une fille en deux sur cette scène.
Es un truco, todos sabemos que es un truco.
C'est un trucage, on le sait tous.
Pero el mago tiene que suspender la incredulidad del espectador.
Voilà, mais il faut que le magicien suspende la crédulité du spectateur.
Y el éxito de su número depende de que el espectador durante un momento piense que es verdad que va a cortar una chica en dos.
La réussite de son trucage dépend du fait que le spectateur croit réellement à un moment précis qu'il va bien découper cette jeune fille en deux.
Por eso rodea su número de efectos una caja, una sierra que hace algo que parece real.
C'est pour ça qu'il entoure son numéro de faits réels, d'objets réels, une boîte pour que cela paraisse réel.
Por lo mismo cuando escribo una novela quiero que el lector entre en mi historia creyéndose que está viviendo algo real para que la parte fantástica inventada por mí le resulte más impactante.
De la même façon, lorsque je crée une nouvelle, je veux que le lecteur croie réellement qu'il est entouré de faits réels et pour qu'il entre vraiment dans cette réalité et la croie.
En mi parte de ciencia ficción, mi serie de novelas más famosas en España es la serie de A Casa Puspa.
Donc la partie qui concerne la science-fiction, ce qui est plus connu en Espagne.
A Casa Puspa. A Casa Puspa.
A Casa Puspa, c'est le nom de la série.
Sí, A Casa Puspa es sánscrito. Es normal que no lo.
Ah, c'est pour ça, c'est du sánscrit. C'est pour ça que je ne savais pas comment le traduire.
En sánscrito, que es una lengua que yo domino.
Je me disais, casa, ça ressemble à maison en espagnol, mais je savais pas que c'était du sánscrit.
C'est un amas globulaire. Voilà, on est dans l'espace.
A Casa Puspa significa. Una flor en el cielo.
Donc cela signifie une fleur dans le ciel en sanskrit.
Es un cúmulo globular y un escenario de space opera alrededor de ese cúmulo globular.
Es una scène de space opera.
En Francia fue publicado por la editorial que entonces le tradujo Sylvie.
Donc en France ça a été traduit par la maison d'édition et c'est Sylvie qui a traduit.
Que dirigía en ese momento Stéphanie. Se llamó Les Enfants de l'Éternité.
Donc, Les Enfants de l'Éternité, c'était chez qui?
Imaginaire sans frontières.
Et bien, esa es la parte científica de mi forma de.
Donc, voilà, c'est ça, c'est ce qui constitue la partie scientifique de ma façon de voir les choses.
Voilà, un roman qui serait temps d'ailleurs lui aussi de rééditer un de ses jours en France. On s'y emploie. On va partir maintenant ailleurs, pas dans l'espace, mais en Argentine. Et on est dans un futur, mais vraiment très proche, on l'imagine. On est dans une anticipation et le monde de libéralisme, finalement, avance en Argentine, comme il avance ailleurs. On va voir que maintenant, il prend de curieux détours. L'homme se détourna. Il les entendit s'éloigner toutes trois vers la maison. Ces moments où Aidé se perdait dans ses marécages, il détestait que Fanny les gaspille à jouer avec une gamine. D'autant que celle-ci l'étudiait toujours avec autant de détachement que s'il était un chien. Généralement, elle leur rendait visite le dimanche. Ce jour-là, Angel traînait la mauvaise humeur d'une nuit blanche. Tous les samedis soirs, des bandes d'allumés parcouraient les toits en s'amusant à canarder les détenus dans leurs cellules. Angel ne dormait pas, il montait la garde pour avoir le temps de prévenir Fanny avant qu'il vienne s'en prendre à lui, si jamais il les entendait approcher. Certains dimanches après-midi, il voyait arriver la petite Victoria dans le sillage des bonnes femmes qui venaient jouer aux cartes avec Aidé. En général, Fanny se mêlait aux parties, et c'est à peine si elle pouvait lui prêter attention, tant tout le temps que durait leur visite. Elle se contentait de lui apporter une assiette de nourriture quelconque, sans lui adresser la parole, et retournait jouer. Angel voyait dans son regard qu'elle s'astreignait à la plus grande prudence. Les vieilles les espionnaient par la fenêtre avec leurs yeux de fouine, à l'affût du moindre signe de familiarité. Elle ne s'est pas passée une occasion de faire des commentaires égrillards sur les trucs qu'elle devait faire, ces deux-là, seule avec cet homme à la maison. Puis elle étudiait en ricanant les réactions de Fanny, comme si elle savait ce qui se passait entre eux quand ils endormaient Aidé. Fanny n'avait pas l'intention d'avouer quoi que ce soit. Elle craignait que cela soit contraire au règlement des prisons vicinales. Quand les policiers l'avaient conduit à sa nouvelle cellule et qu'ils avaient fait la connaissance de ses gardiennes, Angel avait très vite perçu ce qui l'éveillait chez la plus jeune. Cette femme timide l'avait regardé avec intensité, caché derrière le maigre corps de sa mère, mais sans le quitter des yeux. « Bienvenue, jeune homme !» C'est ainsi que l'avait reçu Aidé. Ce matin-là, l'humeur toujours changeante de la vieille femme était au beau fixe. Mais un peu plus tard, dans l'après-midi, elle s'était montrée blessante et méprisante. « Qui s'est permis d'introduire ce délinquant chez moi » criait-elle dans la cuisine. « Mais maman, c'était ton idée ?»« Qu'est-ce que c'est que ces délinquants à domicile, Leandro Avalos-Blachat ?»
Hola, ¿se escucha? En realidad, esa fue la idea original de todo el libro. Poder escribir a partir del encuentro entre estos diferentes los diferentes hogares que desarrollan cada historia. Con el preso al que le tocan, creo que se da.
En réalité, ça a été l'idée originale. C'est vrai, ça va être un peu long. Ça a été le point de départ pour la construction de cette histoire. C'était de mélanger les différents foyers et donc l'arrivée de ces prisonniers chez les gens comme des locataires.
En la primera novela mía, Massachusetts, se daba el encuentro entre... La novela comienza con el encuentro de un personaje zombie que está tomado de la película The Return of the Living Dead, que se llama Trash.
Donc, dans mon premier roman, il y a la rencontre avec une zombie qui est tirée du film Le retour du mort-vivant. J'allais traduire en espagnol en fait. Et donc il s'appelle Trash.
Este zombie en la película es un personaje joven, muy joven todavía.
Donc dans le film, ce zombie est un personnage très jeune encore.
En la novela aparece en su momento de vejez.
Dans le roman par contre, elle apparaît dans un moment de vieillesse.
Y se encuentra con unas maestras también jubiladas. En un barrio que tiene mucho que ver con el conurbano de Buenos Aires.
Donc elle fait la rencontre d'enseignantes, de maîtresses d'école, elles aussi âgées et à la retraite. Et cela se passe dans le Grand Buenos Aires, c'est-à-dire dans la banlieue un peu dangereuse de Buenos Aires.
Un poco en ese encuentro se resume el modo en el que se desarrolla también lo fantástico, en cómo se cruza una realidad más cercana a la de esa zona del Gran Buenos Aires con la fantasía, con un tipo de cine, con una realidad un poco distorsionada.
C'est sur ce mode que naît le fantastique dans cette rencontre. Me están cargando y no te seguí todo. Dans cette rencontre entre différents milieux.
Del mismo modo, el cruce de esos dos de un zombie con un personaje mucho más cercano.
Donc de la même façon, cette rencontre, ce croisement entre deux personnages, un zombie et un personnage beaucoup plus proche, les maîtresses d'école.
Et ainsi comme ce rencontre permettait le fantastique en Massachusetts.
Tout comme cette rencontre permettait la naissance du fantastique dans Massachusetts.
En medianera.
Dans côté court. Hein.
También se podía pensar el fantástico a partir del cruce entre ese preso y cada distinto hogar de ese lugar.
On pouvait concevoir le fantastique dans ce croisement, cette rencontre entre les prisonniers et chaque foyer, puisque chaque foyer abrite des prisonniers.
Un autre peut-être petit extrait pour vraiment voir que dans ces nouvelles prisons, peut-être un problème, plutôt une solution pour la surpopulation carcérale française, finalement, on n'y avait pas pensé. Est-ce que vous voulez prendre chez vous quelques délinquants à domicile? C'est peut-être une vraie idée. Finalement, au lieu d'écrire des romans, peut-être que vous devriez être conseiller de nos gouvernements pour trouver des solutions. Comme tout néophyte, Barbaro Tellez entama sa carrière de lutteur dans la cellule même où il logeait. La cour, relativement grande, se remplit progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul espace libre. Il ne s'attendait pas à faire ses débuts devant autant de monde et cela le rendait nerveux. Son gardien dut venir lui tenir compagnie dans sa cellule, le tranquilliser et lui rappeler à quel point il s'était préparé à cette rencontre. Mais Barbaro ne pouvait s'empêcher de penser que les prochaines heures pourraient bien être les dernières de sa vie. Le geôlier, bien sûr, ce n'était pas son problème. Quoi qu'il arrive, il toucherait sa commission. Pendant ce temps, les spectateurs montraient le condamné du doigt et se moquaient de lui. Il faisait des remarques sur sa maigreur et allait jusqu'à accuser son gardien de ne pas lui donner assez à manger. « Laisse-les dire, » répétait celui-ci à mi-voix. « Ils savent ce que tu ne peux donner. C'est des sauvages. Montre-leur qui tu es, Barbarito. » Soudain, le public s'écarta, créant une allée que remontaient trois pitbulls hors d'eux, munis de muselières et remorquant trois malabars au bout de leur chaîne. Peu habitués à voir des gens, les molosses tirer comme des forcenés pour se libérer et se jeter sur les spectateurs. Devançant la délégation canine, Madga et Elmer vinrent saluer le prisonnier. Barbaro, qui n'avait pas embrassé une femme depuis des années, fut heureux que le combat lui donne au moins l'occasion d'en approcher une avant la fin. Cela lui rendit même son optimisme. « Votre gardien vous a dit du bien de vous, et nous sommes sûrs que vous serez vainqueur, lui fit-elle savoir en souriant. » Le lutteur ne sut que répondre. Il bredouilla une ébauche de remerciements, puis intimidé, baissa les yeux au sol. « Bien, je vous laisse vous préparer, » dit-elle en guise de salut, et elle sortit de la cellule. Alors après, les délinquants locataires, dans les familles pauvres bien sûr, cette fois-ci, il faut chercher du boulot, y compris en prison, les délinquants, les jeux du cirque, comme à Rome. C'est comme ça que vous voyez l'avenir, Leandro Avalos Blacha?
Creo que sí hay algo que también en Massachusetts era muy negativo por la época en la que la escribí.
Je pense que tout comme dans Massachusetts, il y a quelque chose de très négatif qui correspond à l'époque où j'ai écrit.
Que de algún punto permanece en esta novela y quizás es la falta de optimismo en cómo uno puede usar la, sobre todo la tecnología.
Qui dans un certain point reste ici dans ce roman et qui correspond peut-être à une certaine façon d'utiliser la technologie.
Las peores consecuencias que puede tener sobre las relaciones humanas.
Avec les pires conséquences qu'elle peut avoir sur les populations humaines.
Porque eso genera en la novela que cada casa que recibe un preso no lo hace por casi por opción propia.
Parce que cela génère dans le roman que le fait que chaque foyer qui reçoit un prisonnier, il ne le fait pas par choix personnel.
Sino como el único modo que tienen de poder subsistir en ese ámbito.
Mais comme le seul moyen de subsister dans cet environnement.
Y en ese sentido, cada uno creo que es llevado a realizar las acciones más extremas para poder sobrevivir.
Et dans ce sens, chacun est amené à réaliser les actes les plus extrêmes pour réussir, pour parvenir à survivre.
Como montar ese ese circo romano donde hacen luchar a los presos contra distintos animales.
Comme monter ce cirque romain où ils font lutter les prisonniers contre des animaux.
Y bueno, cada historia suele tener un poco distintas, me parece que se mueven distintas pasiones en cada uno de estos habitantes.
Et dans chaque histoire se meuvent différentes passions pour chacun des habitants.
Que sí, generalmente tienen que ver con algo de mucha violencia hacia el otro, sobre todo hacia los presos que tienen en sus casas.
Qui ont à voir avec beaucoup de violence vis-à-vis des autres et en particulier vis-à-vis des prisonniers qu'ils ont chez eux.
Le monde n'est pas gai parfois dans la science-fiction de nos amis latino-américains. On l'a vu en particulier pour Avalos Bacha. On va le voir aussi à nouveau pour Yosh. Petit extrait de Planète Allouée. Il se remémora à nouveau Candria, cet artiste des holoprojections rencontré sur Colossa. Une splendide métisse d'humain et de centaurien, dotée d'un véritable talent. Certaines de ses multisymphonies étaient superbes et la fille faisait l'amour de façon fantastique. Quel dommage qu'il ne se soit vu que 2 semaines. Moy aurait bien poursuivi une relation plus sérieuse et durable avec elle, mais l'agent centaurien de Candria s'y était opposé. C'était son propre père. Et bien qu'elle ait juré à Moy que cet humanoïde à la peau bleuâtre l'aimait vraiment, même un aveugle aurait pu se rendre compte que le prétendu amour filial de son géniteur n'était qu'une manœuvre bien pensée, pour gagner beaucoup d'argent sur le talent de sa fille bâtarde. Assez de crédit pour que la rigide société de son monde lui pardonne le péché d'avoir mêlé son sang avec celui d'une espèce aussi inférieure que celle de l'Homo sapiens. L'affection et la considération que le père de Candria lui témoignait étaient trop exagérées pour être réelles, surtout de la part d'un membre d'une espèce aussi froide et distante que celle des centauriens. On disait d'eux qu'ils avaient un glaçon à la place du cœur et un ordinateur pour cerveau, et de la vie de Moy, ils ne valaient pas grand-chose. Mais il n'avait jamais fait aucun commentaire à ce sujet. Si la pauvre fille était heureuse de croire en l'amour de son petit papa, il n'allait pas lui briser ses illusions, du moins pas tant qu'il pourrait profiter de son sublime corps. Il soupira au souvenir de ses rencontres. Candria, sa peau avec cette magnifique teinte turquoise, si souple, ses yeux immenses, sa passion. Candria était un magnifique exemple de ce que toi, grande brute, appelais cyniquement exploitation optimale de la capacité installée. Comme presque tous les hybrides, elle était stérile et pourtant, bien que son appareil génital ne soit pas fonctionnel, elle était capable d'un tel enthousiasme sexuel. En matière de sexe, rien n'est écrit, marmonna Moy en haussant les épaules. Corruption de la société, c'est comme ça que fonctionne ce monde futuriste qui, en fin de compte, est une sorte de décalque du monde qu'on peut vivre aujourd'hui entre les dominants, métaphore des États-Unis, et les dominés, métaphore des petits pays, dont Cuba. C'est ça, Yosh ?
Creo que realmente el mundo de hoy es la oposición, y más que oposición, a veces superposición de los pequeños países y por encima de ellos los grandes países. Superposición digo porque no se trata de que sean enemigos, no se trata de que sean, digamos que, rivales equivalentes. Obviamente, un país como los Estados Unidos no puede compararse con una isla pequeña como Cuba, ni en cuanto a poder económico, cantidad de habitantes.
Alors, je pense que on peut pas forcément parler d'opposition, mais plutôt d'une espèce de superposition des petits pays, des pays faibles et des grands pays puissants qui vont dominer les pays plus faibles. Et effectivement, il n'y a aucune commune mesure entre un tout petit pays comme Cuba, en termes de taille, de nombre d'habitants, d'économie, avec un grand pays comme les États-Unis, qui effectivement est bien plus grand et économiquement plus puissant et compte beaucoup plus d'habitants.
Pero supongo que en el fondo, cada estilo de vida se reconoce en el otro. Cada uno reconoce en el otro lo que una vez fue o lo que quisiera ser, exactamente lo que le falta. Como decía Sartre, el infierno son los otros.
Et je pense que néanmoins tous sont capables de se reconnaître quelque part en l'autre, de reconnaître ce qu'ils ont été, de reconnaître ce qu'ils pourraient être ou ce qu'ils voudraient être. Et comme dit le proverbe, l'enfer, c'est les autres.
Hay muchos habitantes del primer mundo, no solo norteamericanos, también europeos, japoneses, que sueñan con el retorno a la vida de Rousseau, del buen salvaje. Ah, todo el día en una hamaca, comiendo plátanos a la orilla del mar, qué facilidad, qué falta de preocupaciones. Y cuando llega a ese lugar, descubre que los habitantes de ahí sueñan con estar todo el día conectados a internet, cogiendo el metro, teniendo una cuenta bancaria.
Et en fait, on se rend compte que les habitants des grands pays, ils ont toujours cette espèce de fantasme de vie à la Rousseau, donc retourner à l'état sauvage, vivre sur une plage au bord de la mer, manger des bananes, s'allonger au soleil toute la journée, et qu'est-ce que ça serait génial. Et lorsque finalement ils vont visiter les petits pays pour voir un peu comment ça se passe là-bas, sur les plages en question, ils découvrent que les habitants des petits pays n'ont qu'un seul rêve, c'est d'avoir une vie de dingue, de prendre le métro tous les matins, d'être connecté tout le temps à Internet et d'avoir finalement la vie que les autres voudraient abandonner.
Entonces no se trata de una verdadera oposición, sino de dos caras de la misma moneda. El hombre siempre desea lo que no tiene y piensa que el césped que es más verde en el jardín del vecino.
Oui, et donc en fait, il ne s'agit pas d'une opposition, mais plutôt de deux faces d'une même pièce. Puisque en fait chacun veut ce qui se trouve dans le voisin de l'autre.
Y es un deseo que no tiene solución, porque si nos movemos hacia el jardín del vecino, seguimos siendo nosotros y él sigue siendo el vecino. Nunca logramos identificarnos con nuestro deseo.
Et en fait, il n'y a pas de solution à cette situation-là, puisque si on arrive à s'emparer du jardin du voisin et à se mettre dedans, et ben, à nouveau, il y aura un autre voisin à côté et on n'arrivera jamais à réaliser notre désir, puisqu'il va toujours se déplacer dans le jardin du voisin.
Disculpen si he sonado un poco a Freud ou incluso a Lacan. Disculpen si he sonado un poco a Freud ou a Lacan.
Et donc, excusez-moi si finalement j'ai l'air d'être un peu de sonner un peu comme du Freud ou du Lacan.
Pero después de todo el psicoanálisis, a mi modo de ver, también es una de las grandes novelas de ciencia ficción del mundo. Nadie nunca ha demostrado que exista. Funciona porque hay mucha gente que cree en él.
Et donc d'ailleurs, si on parle de psychanalyse, quelque part, c'est un petit peu comme une espèce de gros concept de science-fiction, parce que personne n'a jamais prouvé qu'elle existe, mais il y a beaucoup de gens qui y croient.
Autre livre, ton caustique, Interférence. Un roman en trois épisodes, trois situations dans un petit pays, confronté à un grand pays. D'ailleurs, ça commence comme un conte de fées. Il était une fois un grand pays, un petit pays. Dans l'épisode 3, Les Cheminées, un petit extrait. Et j'attire votre attention sur l'humour de Yosh et le fait que, vivant à Cuba, il a un regard critique sur son pays. Mais vous verrez que ce n'est pas un suppôt inconditionnel non plus des États-Unis. Un regard intéressant justement parce que complexe et subtil. Dans le grand pays, gouverné depuis plusieurs décennies, une poignée de riches blasés, grâce à un système simple et efficace. L'achat des voix d'un peuple éduqué dans le principe que l'argent guide le monde et habitué au fait que tout a un prix. C'était bien évidemment une démocratie. Dans le petit pays, gouverné depuis plusieurs décennies, son affable dictateur, grand timonier du destin national, élu chaque année par son peuple lors d'élections de manière simple et efficace, il était le seul candidat autorisé à se présenter. C'était, ne vous en déplaise, une démocratie. Voilà, rien qu'en deux paragraphes, il a posé une double satire. Et ce regard de Yosh, j'aimerais lui demander si, par rapport à beaucoup d'écrivains de son pays, ce n'est pas justement un regard original. S'il ne se situe pas sur une sorte de troisième voie à la fois littéraire et dans sa réflexion, qui est de ne pas faire comme un certain nombre d'auteurs qui sont partis à l'étranger et qui sont devenus inconditionnels du système économique. Lui, sa satire, elle va dans un sens, mais elle va aussi dans l'autre sens. Est-ce que pour lui, cet équilibre, c'est ça son regard critique que lui permet la littérature de science-fiction ?
Gracias. crítico del que haga el periodismo. Y tú criticas el sistema de Cuba, pero también criticas el sistema de los Estados Unidos cuando no es bueno, que quizás es muy original para un eurocubano, ¿no?
Sí, yo creo que el papel de un intelectual no es nunca alabar. Yo me considero como un francotirador. Soy el tipo de persona que si cae en el paraíso, a los 10 minutos le estaría diciendo a San Pedro por qué este diseño tan viejo de las túnicas, estos halos redondos, estas alas que no tienen estilo.
Alors moi je pense que le rôle d'un intellectuel c'est pas de faire les éloges de quelque chose. Moi je me considère comme un franc-tireur. Et que donc, si j'étais au ciel, finalement, je pourrais critiquer un certain nombre de choses, la tenue de Saint-Pierre, la taille des salles dans les nuages, etc., etc.
El pensamiento didascálico, o sea, la lógica aristotélica del tercero excluido, es terrible. O sea, si uno critica algo, todo el mundo piensa, está a favor de lo contrario. Yo no estoy ni a favor ni me opongo, sino todo lo contrario.
Et en fait, on a tendance à penser que quand quelqu'un critique quelque chose, c'est qu'il est en faveur de ceux qui posent cette critique et qu'il est en faveur de l'autre système. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que si je critique quelque chose, ça ne veut pas dire que je suis pour le contraire de ça. Moi, je suis ni pour ni contre, mais bien au contraire.
Muchos de los escritores cubanos que emigraron a otros países, a los Estados Unidos, ahora regresan como turistas a Cuba y se quejan de que han perdido algo, de que han perdido cierto estado de inocencia, de que se les están secando las raíces, o los que no se quejan, es obvio en su obra que han perdido cierto norte.
En fait, je connais un certain nombre d'écrivains cubains qui sont partis vivre à l'étranger et puis qui, à un moment donné, vont revenir à Cuba en tant que touristes. Et quand ils reviennent là, finalement, ils réalisent qu'ils ont perdu quelque chose. Il leur manque quelque chose, ils ont coupé des racines, et même s'ils ne s'en plaignent pas, ils ne sont plus tout à fait complets.
Yo creo que es muy fácil para un escritor, cuando tiene un éxito económico, dejar atrás su país si no le gusta. Me pregunto, los que viven en los Estados Unidos y no le gusta su país, ¿a dónde se van?
Donc je pense que un écrivain quand il aime pas un pays il dit voilà je vais m'en aller mais finalement ces Cubains s'ils découvrent que les États-Unis leur plaisent pas ils vont aller où?
Siempre, en Cuba siempre nos decían a los escritores que criticábamos el sistema socialista y decíamos que no era perfecto, que no teníamos derecho a criticar si no proponíamos soluciones.
Et donc finalement tous ces écrivains qui critiquent le système socialiste, je pense qu'ils n'ont pas le droit de critiquer tant qu'ils proposent pas une autre solution.
Si yo creyera que tengo las soluciones, me postularía para ministro o intentaría dar un golpe de Estado.
Et donc si moi je pensais que j'avais les solutions, finalement soit j'essaierais de devenir ministre ou bien j'essaierais d'organiser un coup d'État.
Mi preocupación es que sospecho que lo haría incluso peor que los gobernantes actuales.
Mais j'ai de sérieux doutes parce que je pense que ce que je ferais, ça serait sans doute pire que le gouvernement actuel.
Hace 4 meses me preguntaban en Ecuador cuál era el modelo de gobierno que a mí más me gustaría. Y yo respondía monarquía absoluta y rey yo.
Et on m'a demandé qu'il y a quelque temps, je faisais une intervention en Équateur, on m'a demandé quel serait le régime politique que je préférerais. Et j'ai répondu monarchie absolue et c'est moi qui serai le roi.
Pero uno, si es un ser humano y cree en que la humanidad es la capacidad de relacionarse con los demás, adquiere también cierta responsabilidad. Y la responsabilidad del escritor es tratar de mejorar la sociedad en la que vive, aunque no le guste, o sobre todo si no le gusta.
Et de même que la condition d'être humain, c'est d'être capable d'accepter les autres et de regarder les autres, je pense que le rôle de l'écrivain, c'est finalement de pouvoir décrire la société où il vit, mais avec une certaine objectivité, qu'il l'aime, ou surtout, même s'il ne l'aime pas.
Hay quien lo hace con ideas científicas, hay quien lo hace con balas. Los escritores lo hacemos simplemente con ideas, haciendo preguntas incómodas. Una pregunta incómoda a veces puede hacer más por un país que el descubrimiento de una mina de diamantes.
Et en fait, il y a des écrivains qui le font de diverses manières, à travers la science-fiction ou à travers d'autres courants littéraires. Mais ils vont souvent mettre en évidence certaines choses qui ne vont pas. Et mettre en lumière quelque chose qui ne va pas, pour un pays, c'est sans doute plus précieux que d'avoir découvert une mine de diamants.
Quand j'écris ce type de science-fiction sociale, intento hacer pensar a los lectores. No les digo cómo podemos mejorar el mundo porque no sé. Pero espero que alguno de ellos tenga mejores respuestas que yo.
Lorsque j'écris ce type de science-fiction sociale, j'essaye en fait de faire réfléchir le lecteur. Je ne suis pas là, moi, pour lui proposer des solutions. Je lui montre juste un certain nombre de choses et j'espère que lui va avoir une idée pour améliorer les choses.
Mi mayor sueño es que algún día un presidente de Cuba me diga o diga, de algún modo reconozca, he sido mejor político porque leí un libro de ellos. Mi peor pesadilla es que después él mismo me mande a fusilar.
Donc mon plus grand rêve, ce serait qu'un jour un dirigeant de Cuba, un nouveau président de Cuba, vienne me voir et me dise je suis devenu président et j'ai eu toutes ces idées parce que j'ai lu un livre de Yoss, et mon pire cauchemar, ce serait qu'après il me fusille.
Très court extrait parce que le temps passe et il va malheureusement bientôt falloir nous quitter pour laisser la place à d'autres. Mais bon, on aurait continué à passer, moi je sens bien, avec tous ces écrivains venus d'Espagne et d'Amérique latine, et j'aurais vraiment été ravi qu'on puisse poursuivre la discussion. Mais bon, on a un format et voilà, c'est une petite contrainte, mais après vous allez être bien frustrés, vous allez vous précipiter sous la bulle du livre pour acquérir leur livre et vous verrez, vous aurez plein de choses à faire cet été, à les lire. Inquiète Dora à éviter les rues les plus fréquentées, même si cela signifiait que le court trajet lui prendrait plus de temps. Elle ne cessait d'observer sa compagne pour vérifier qu'elle était toujours vivante et se tenait tranquille. En arrivant au parking de l'immeuble, elle se gara et attendit ses amis dans la voiture. À une ou deux reprises, elle essaya d'inciter la femme à parler et elle lui racontait qui elle était. Elle lui proposa de l'eau, de quoi manger, lui demanda même si elle souhaitait écouter une radio en particulier. Face à son silence embarrassant, Dora finit par allumer l'autoradio et mit sa cassette préférée. Les grands succès de Valeria Lynch, instantanément, l'inconnu se mit à pousser des hurlements chargés d'angoisse, dont le volume ne parvint toutefois pas à couvrir la voix qui venait d'entonner comme une louve. On imagine là une satire sur un artiste argentin. « Si ça ne te plaît pas, je peux mettre autre chose », dit Dora fébrilement tout en cherchant à tâtons une autre cassette. Elle trouvait le comportement de cette femme discourtois et abusif et ses cris l'effrayaient quelque peu. Mais à la vérité, ce n'était pas que la chanson avait déplu à trash. Elle lui avait juste rappelé la voix d'une zombie de ses amis, Fiona. Elle l'avait connue dans les Balkans, en même temps que Ninou et François, tous des zombies adorables. Est-ce que l'Argentine est un pays rempli de zombies adorables? Leandro Valos Blachar.
Argentina, yo encontré realmente, gracias al festival y a, que conocí por eso a Yoss, encontré, por ejemplo, Interference, que es muy, muy cercana en muchas cuestiones a las problemáticas argentinas.
J'ai compris dans ce festival, et notamment à travers le roman Interférence de Yoss, que les problématiques sont très très proches de celles de l'Argentine.
Aún con las diferencias de Cuba y Argentina y a las cuestiones que él hizo referencia en particular.
Même en prenant en compte les différences entre Cuba, bien sûr, et l'Argentine.
Pero sí en el sentido que creo que también es un país marcado por cómo relacionarse con el país grande. Creo que es extensible a toda Latinoamérica.
Dans le sens où il s'agit aussi d'un pays qui se pose la question de comment se créer des relations et se relationner avec le grand pays, donc les États-Unis.
En ese sentido, creo que es algo que se dio tanto, es una pregunta que se dio en la literatura, cómo escribir desde la Argentina.
Donc, dans ce sens, c'est une question qui s'est posée dans la littérature, c'est-à-dire comment écrire depuis l'Argentine.
Y Borges la resolvió muy fácilmente para todos los que vinimos después.
Et Borges a trouvé une solution très simple pour tous ceux qui sont venus après.
Y fue apropiarse de la cultura universal con total libertad.
C'est-à-dire faire sienne la culture universelle avec une totale liberté.
En cuanto a lo político, es lo que bueno, todavía aún no se pudo resolver hasta el día de hoy tampoco.
Quant à ce qui concerne le politique, c'est quelque chose qu'on n'a pas été capable de résoudre jusqu'au jour d'aujourd'hui.
En Massachusetts, creo que todos los personajes también están midiéndose con cierto modelo o imagen de ciudadano que no tienen que ver con la realidad de su propia ciudad.
Dans Massachusetts, les personnages se évoluent avec
que no tiene que ver con la realidad propia de su ciudad.
Avec quelque chose qui n'a pas du tout qui n'a rien à voir avec la réalité propre de sa ville.
Siempre están aspirando a parecerse a algo que no son.
Ils aspirent toujours à ressembler à quelque chose qu'ils ne sont pas.
Muchas veces de ese intento que siempre fallido, quizás está lo más grotesco de la novela.
Et c'est là que se trouve le plus grotesque du roman, dans cet essai toujours manqué.
Y en la novela creo que los zombies que aparecen son los únicos que realmente actúan y se muestran tal cual son.
Et dans ce roman, ce sont les zombies finalement qui sont les seuls à se montrer tels qu'ils sont.
Así que creo que en realidad, bueno, harían falta más zombies.
Et donc je pense qu'en réalité, il faudrait qu'il y ait davantage de zombies.
Dernier petit extrait, il va être temps de nous quitter. Évidemment, on va terminer avec Juan Miguel Aguilera, logique, vite emblématique, et puis notre affichiste 2014. Et là, on est plutôt dans la fantasy historique. Vous voyez, on a d'abord découvert les univers de science-fiction d'Aguilera, du vrai space opéra, du beau space opéra flamboyant. Et puis, celui qu'on avait vu, c'était La rencontre avec les extraterrestres. Et puis là, on est passé par nos différents auteurs sur une science-fiction critique socialement, pleine d'humour noir. Et on revient cette fois-ci à une fantaisie, mais à une fantaisie historique. Et le goût des rencontres et des grands voyages qui est une des marques de fabrique de la littérature de Juan Miguel Aguilera. La cité n'avait besoin ni du soleil ni de la lune pour être illuminée. Ses portes ne se fermaient pas car il n'y avait point de nuit. Voilà ce qu'affirmait l'Apocalypse et c'était ce que je voyais à ce moment-là. Tandis que le soir teintait de rouge les façades de cristal des édifices, je fus témoin de l'apparition de petites lumières un peu partout, illuminant les rues et convertissant les édifices en impressionnantes tours de lumière telles des bijoux de feu qui s'élevaient vers le ciel. Nous étions sortis et déambulions sur les ponts qui reliaient les édifices entre eux. Je restais interdit lorsque je vis les globes de cristal qui ornaient le pont s'illuminer comme par magie, l'un après l'autre d'une lumière brillante et dorée. Alors je m'arrêtai émerveillé, montrant à Néléis un nouveau prodige. C'était un homme équipé d'un harnais de cuir autour du torse. Ce harnais le reliait, au moyen de cordes, à un énorme ballon d'une dizaine d'aunes de diamètre. Cet homme volait comme un ange accroché à ce ballon. Une autre corde fixée à son harnais le rattachait au sol, plusieurs étages plus bas, où un deuxième manœuvrait un treuil qui lui donnait plus ou moins de cordes, lui permettant ainsi de monter et de descendre. Il eut bientôt de plus en plus de ses aéronautes. Il semblait faire partie du paysage. Attaché à ses longues cordes, il montait et descendait, collé aux longs édifices, occupé à nettoyer les vitres. « Des laveurs de vitres ?» m'expliqua Néléis avec indifférence. Nous parcoururent le pont jusqu'à une plateforme circulaire entourée d'une remblarde métallique, reproduisant les formes d'une plane grand-pente, avec des feuilles de vigne et de minces grappes. À côté de cette plateforme, est-ce une sorte d'embarcadère, était stationné l'un de ces ballons flottants, mais il était beaucoup plus grand que ceux qui portaient les laveurs de vitres. Il était aussi grand que l'Olivette et une petite barque en bois était suspendue au-dessous. Néléis monta sur cette barque, m'invitant à faire de même. Je contemplais avec hésitation l'énorme ballon flottant. « Il n'y a pas d'autre moyen d'aller rejoindre tes amis. Seuls les sorciers et sorcières ont le pouvoir de voler, » répliquai-je. Les découvertes, parfois, sont surprenantes. Est-ce que ce qui vous a intéressé dans toute une série de vos romans, dont La folie de Dieu, qui vous a fait connaître en France, Juan Miguel Aguilera, est-ce que justement, votre œuvre, aussi bien de science-fiction que de fantasy historique, est-ce que ce n'est pas avant tout la curiosité et la rencontre avec l'autre qui l'a défini?
Non,
Sí, es exactamente eso. Creo que siempre he escrito la misma novela.
C'est tout à fait ça. Je pense qu'en fait, j'ai toujours écrit le même roman.
Hay un tema que me interesa muchísimo y es el tema del viaje y el encuentro con el otro.
Il y a un thème qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le voyage et la rencontre avec l'autre.
Ayer lo comentaba en otra mesa en la que estuve, pero es algo en lo que para mí es esencial.
Oui, j'en parlais déjà dans une autre table ronde. C'est en réalité quelque chose qui est vraiment essentiel pour moi.
Creo que el ser humano responde ante lo extraño, ante lo inesperado, ante lo fantástico, lo que está fuera de lo habitual, de dos formas.
Je crois que l'être humain répond par rapport au fantastique, au surnaturel, à ce qui sort de l'habituel de deux façons.
Con xenofobia.
Avec xenophobie.
Odio a lo extraño, el no querer conocerlo, el querer encerrarse en un cascarón y no entender cómo es el mundo de fuera.
Donc la xénophobie, la haine de l'autre, l'enfermement sur soi-même, ne pas vouloir connaître ce qui sort de son environnement.
O la forma contraria, maravillándose ante lo extraño, considerando una experiencia que te hace evolucionar y te cambia.
O alors tout l'inverse, en s'émerveillant et en considérant cette rencontre comme une expérience qui te fait changer.
Realmente no somos adultos hasta que no los europeos creo que no fuimos una sociedad adulta hasta que no empezamos a viajar y conocimos a otros países en la Edad Media.
En réalité, je crois que les Européens, nous ne sommes pas devenus adultes avant d'avoir voyagé au Moyen Âge et d'avoir fait la connaissance d'autres cultures.
Porque encerrados en sí mismo, en España ahora mismo tenemos muchos problemas con la idea del nacionalismo.
Parce qu'en s'enfermant sur soi-même et actuellement en Espagne, nous avons beaucoup de problèmes avec cette idée de nationalisme.
Es decir, gente que no le interesa el exterior, quiere solo encerrarse en su propia cultura y quiere ignorar lo que está fuera de una frontera.
C'est-à-dire des gens qui ne sont pas intéressés par d'autres cultures et qui veulent seulement s'enfermer sur soi-même, sur eux-mêmes, pardon.
Et pour moi, me parece una visión infantil del ser humano, algo que proviene de nuestra época en la que vivíamos en cavernas.
Pour moi, il s'agit d'une vision infantile, puérile, du temps où on vivait dans les cavernes.
Siempre pienso en la película 2001, de ser en el espacio, que creo que hemos visto todos.
Je pense toujours au film 2001. Que nous avons certainement vu tous.
Cuando están estos Australopithecus en un pequeño charco de agua que es suyo.
Lorsque ils se trouvent dans cette petite flaque qui est la leur.
Estos humanos primitivos, no son humanos, son Australopithecus, temen cualquier cosa que venga del horizonte.
Donc ces humains, ces Australopithecus. Australopithèques ont peur de ce qui vient du dehors.
Esto es una forma de nacionalismo, es decir, lo que viene de fuera nos puede atacar, nos puede quitar lo que es nuestro.
Voilà, c'est une forme de nationalisme puisque ce qui vient du dehors peut nous ôter ce qui est notre.
Pero un sistema de supervivencia es explorar, ir a encontrarte con otras formas de vida, con otros horizontes.
Mais en réalité, la solution de supervivance, de survie, c'est le fait d'aller à la rencontre, de prendre ce risque d'aller à la rencontre de l'autre.
Entonces creo que nuestros genes están esas dos tendencias.
Donc je pense que dans nos gènes existent ces deux tendances.
El miedo a lo extraño.
La peur de l'étrangeté.
Y la fascinación ante la maravilla, ante lo extraño.
Et la fascination face à ce qui est merveilleux, à ce qui est étrange.
En esta novela quise mostrar esa fascinación por lo extraño en la Edad Media precisamente.
Et dans ce roman, j'ai voulu montrer justement cette fascination pour ce qui est étrange, étrange et étranger.
Cuando la estaba escribiendo, leí muchos libros de viajeros medievales.
Lorsque j'étais en train de l'écrire, j'ai lu beaucoup de livres de voyageurs médiévaux.
El más famoso de todos es Marco Polo, pero hay muchos, Pian de Carpine, Rubruck, muchos libros de viajeros medievales europeos. Donc,
comme Marco Polo, par exemple.
Pian de Carpine.
Pian de Carpine.
Rubruck.
Rubruck.
Y lo que me di cuenta es una cosa fascinante. Y es que lo mismo que les movía a ellos, les provocaba esa sensación que en ciencia ficción llamamos sentido de la maravilla.
Et j'ai réalisé quelque chose de fascinant, c'est que ce qui attirait leur attention déjà, c'est-à-dire ce sens du merveilleux.
Esas mismas cosas son las que ahora nos maravillan a nosotros.
Ce sont ces mêmes choses qui aujourd'hui nous émerveillent.
El ser humano realmente no ha cambiado. Ese amor por lo fascinante que creo que tenemos todos los que somos aficionados a la ciencia ficción y a la fantasía está en nuestros genes y estaba en la época de Marco Polo ya.
L'être humain n'a vraiment pas changé, c'est toujours cet amour pour l'étrangeté, ce qui est étrange et étranger qui continue à nous fasciner aujourd'hui.
Je trouve que parfois, au moment où le préjugé et la xénophobie montent, eh bien, je trouve que c'est une belle fin pour notre rencontre. Et je vous incite à vous précipiter. La folie de Dieu, donc, de Juan Miguel Aguilera, le premier prix Imaginal. On n'a pas peur des étrangers, on l'a décerné à Juan Mi. Ensuite, Avalos Blacha, Leandro Berrazachuchetz, un roman de zombie, mais tout à fait étonnant et brillant, réédité d'ailleurs chez Folio SF. Côté court, cette histoire de prison à louer, ou plutôt de locataires avec leurs prisonniers. Yosh, Interférence, grand et petit pays, la satire, l'humour, et vous verrez des situations drôles et parfois moins drôles. Planète à louer, de la vraie science-fiction néoclassique, on en a parlé, je vous en ai lu des extraits, où vous trouverez un grand pays, mais là c'est plutôt la Terre, les étrangers, les extraterrestres, et plein de métaphores. Et pour terminer, à nouveau Juan Miguel Aguilera, de la grande science-fiction, Le filet d'Indra aux éditions La Talente. Merci à vous. Merci à nos amis.